le matin.
Boulevard 102.1.
7h27, pile poil. Comment ça va? Bon mardi matin. Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. À partir de 10h, ce sera Max, son point à lui. Ça lui appartient.
Le point
de Max.
Oui.
Après ça, ben, on en jase avec Jeff. Jeff, il en jase.
Avec Antonine Iacarini, Pascal Cévé.
Denis Gravel, qu'on va avoir dans le pit stop dans les prochaines minutes, sera là aussi à 14h avec Véro. Et c'est qui? C'est Gab Marino qui est là?
C'est Nathan Meyer.
C'est Nathan! Colin, Nathan, qu'on peut entendre. D'ailleurs, je l'écoutais hier. Effectivement, il y avait une bonne discussion. Peut-être qu'on va récupérer une discussion qu'ils ont eue hier sur un dossier que je trouvais franchement intéressant. Mais d'ici là, on va jaser avec le docteur Martin Savard, qui est médecin spécialisé en neurologie à l'hôpital L'Enfant-Jésus dans les prochaines secondes. On va parler du moral des troupes et d'un sondage qui est sorti chez les médecins spécialistes qui peuvent faire peur, là, si on prend les médecins spécialistes au mot. On va retourner à la circulation.
Yes, pour ce qui est de l'accès au pont Pierre-Laporte, mais attention, direction sud, c'est extrêmement compliqué. Il y a un accident qui, aux dernières nouvelles, là, cause la fermeture de 2 voies sur 3. Fait que gros bordel direction sud ce matin. Est-ce qu'on est moins habitué d'avoir? Là? Direction nord, on est habitué, puis c'est d'ailleurs encore le cas ce matin. Là. Fait que passer d'une rive à l'autre, peu importe la direction présentement, je vais vous souhaiter un gros bonne chance. Capitale-Ouest, à mi-chemin entre Beau-Royal et Seigneurial, c'est au rouge. Jusqu'à Laurentienne. Robert-Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, toujours compliqué. Henri IV Sud, jamais un peu avant Sainte-Geneviève jusqu'à Chauveau-Ouest.
Martin Savard, médecin spécialisé en neurologie à l'hôpital L'Enfant-Jésus. Comment allez-vous?
Ça va. Ça va, on s'en sort.
Merci d'être là. Merci d'être là avec nous. Comment ça va le moral des troupes là, chez les médecins spécialistes, chez les médecins omnipraticiens, parce que vous les croisez dans les hôpitaux aussi?
Oui, ben, les omnis, on les voit un peu moins, nous autres, à L'Enfant-Jésus. Là, dans certains hôpitaux, comme à Saint-Sacrement, ils sont un peu plus présents.
Ouais.
Mais le moral, il s'améliore pas bien. On a des échos de petites concessions, ça et là, des fois de temps en temps, là, mais qui...
Mais les concessions, c'est le gouvernement qui les a faites jusqu'à maintenant. Les médecins omnipraticiens, les médecins spécialistes n'ont pas fait de concessions. Ils veulent plus voir Christian Dubé.
Oui, ben je ne sais pas quelles concessions on peut faire à part présentement, là, parce qu'on n'a pas grand-chose dans ce qui nous a été offert, là, mais tu sais, les concessions de la part du gouvernement, quand on prend la dernière, par exemple, où on nous dit « Ah, ben faites-vous-en pas, on n'appliquera pas de tel à tel article, là, on les appliquera pas, ceux-là. » OK, vous allez les enlever de la loi? Non. Mais vous avez notre parole, on n'appliquera pas ces articles-là.
C'est jamais faire confiance à un politicien.
C'est un peu inquiétant. C'est comme si on avait un fusil sur la tempe et on disait, ben, pourrais-tu retirer le fusil à ce moment-là? Là? C'est correct, là. On est content. Mais non, on va laisser le fusil sur la tempe quand même. Fait que c'est une concession relative.
Ouais. Là, il y a un tout nouveau sondage qui a été réalisé pour les médecins spécialistes qui démontre carrément l'insatisfaction à l'endroit de la loi spéciale sur la réforme de santé de Québec. On va parler du réseau. Mais il n'y a pas de surprise. On le sait que vous êtes très insatisfait sur cette fameuse loi spéciale. C'est 6 700 membres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui ont répondu au sondage. C'est un sondage léger. Et ce qu'on nous mentionne, c'est que le taux de participation est autour de 59%. Et il y a 99% des médecins spécialistes qui mentionnent que la loi 2 est une loi extrêmement mauvaise. Moi, ce qui m'inquiète le plus, docteur Savard, c'est de savoir qu'il y a 36%, donc presque 4 médecins spécialistes sur 10 qui prévoient quitter le Québec d'ici 5 ans. Essayez de les convaincre, il ne faut pas en perdre un. Là. On est dans la merde si vous quittez.
Oui, ben, je pense que c'est pas moi qui peux être le plus convaincant dans ce dossier-là. Là.
Allez-vous rester avec nous autres, vous?
Ben, pour l'instant, j'ai prévu rester, puis je ne veux pas semer la panique. Là. Mais tu sais, si... Moi, dans ma tête à moi, de toute façon, c'est une loi qui va tomber avec les prochaines élections. Ensuite de ça, si la loi persiste, ben je réfléchirai. Mais pour l'instant, je n'ai pas prévu quitter le Québec personnellement.
Puis quand on vous a posé la question, parce que là, le sondage a été fait, Jeff, du 31 octobre au 6 novembre. Fait que les mauvaises nouvelles étaient toutes annoncées. Là,
exactement.
Tu me le confirmes.
Mais là, depuis ce temps-là, Christian Dubé dit « je ne l'appliquerai pas ».
Oui. Quand on vous a posé la question, Dr Savard, vous avez répondu quoi?
Honnêtement, je ne me souviens pas de tous les détails des questions, mais c'est sûr que j'ai certainement manifesté des inquiétudes et que j'allais regarder quand même ailleurs ce qui se passait. Là. Ça, c'est clair et net, là, okay. Parce que si le climat proposé dans cette loi-là persiste, déjà là, comme j'ai dit, on est dans un milieu quand même difficile, un milieu très émotif, un milieu qui peut être... limite toxique par moment là, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est des gros enjeux, c'est pas facile.
Mais est-ce qu'on peut
facile?
Considérer ça comme du chantage, ce que les médecins spécialistes mentionnent en disant « si ça change pas, nous, on sac notre camp d'ici 5 ans ». Ça peut-tu être considéré comme du chantage? Parce que concrètement, je pense pas que 4 médecins sur 10 veulent sacrer le camp. Là.
Ils ont... C'est peut-être quand même beaucoup de monde. Ouais. Ceci étant dit, il y a des problèmes qui sont réels. T'sais, au départ, quand la loi est sortie, les gens étaient un peu inquiets de parler à cause de toutes les possibilités d'amende et tout ça. Là, dernièrement, on dirait que les langues se délient un peu plus, puis il y a des cliniques concrètes à des endroits concrets qui annoncent leur fermeture. Il y a des régions où il y a des problèmes concrets. Moi, la pire région, nous autres, c'est connu depuis des années. Là. Nous autres, en neurologie, il y a un grave problème à Gatineau. La rivière des Outaouais, c'est pas bien large. C'est facile d'aller de l'autre bord. Les gens habitent sur une rive, vont travailler à l'autre. Ils ont rené avec... 2-3 neurologues pendant assez longtemps. Ils ont réussi à aller chercher du monde un peu, des gens de l'extérieur du pays. C'est pas si simple que ça. Des fois, j'entends dire le monde, il y a un qui allait engager tous les chauffeurs de taxi de Montréal, ils vont remplir les hôpitaux de docteurs. Mais c'est pas vraiment si simple que ça. Là. Les niveaux de formation sont pas équivalents partout sur la planète, là, je vous le dirais. Puis c'est des régions où il y a des réelles inquiétudes. Là. Il y avait encore dans la presse ce matin une chirurgienne qui va lâcher, puis il va rester une personne qui fait de la reconstruction de sein, post-cancer du sein dans l'Outaouais. Ils ont déjà été 4-5, je ne sais pas trop. Puis là, juste une personne, à cause qu'elle s'en va à Ottawa. Là. À Québec, on est loin des provinces, là, mais quand tu es proche d'une frontière, là, c'est un réel problème. Puis c'est des comptables qui devraient comprendre quand même qu'il y a une loi du marché. Là.
Martin, qu'est-ce que ça va prendre pour que vous acceptiez d'avoir une partie de votre rémunération qui est liée à des indicateurs de performance? Ça, c'est question qui revient tout le temps de nos auditeurs. T'sais. Est-ce ouais. que, pour toi qui es médecin spécialiste, ça va prendre plus d'heures de bloc opératoire, ça va prendre plus de moyens? T'sais. Qu'est-ce que ça prend, dans le fond? Quel compromis ça prend du gouvernement?
Bien, ça, là-dessus, ça dépend quelle approche qu'on a. Si on a une approche, encore une fois, comptable, une approche de qualité. Là, pour moi, des indicateurs de performance de qualité, puis c'est ce qui est demandé par les fédérations, ça a un certain sens. Qu'est-ce que ça veut dire, un indicateur de performance de qualité? Ça peut dire, par exemple, pour un médecin de famille, je vois un patient dans mon bureau, puis il ne se retrouve pas à l'urgence dans les 72 heures qui suivent. Là, okay. J'ai réglé son problème, puis je m'en suis occupé sous le temps du monde. J'ai pas fait « retourne chez vous, je m'occupe pas de toi », puis finalement, il se ramasse dans une salle d'urgence, puis il aggrave le problème. Ça, c'est un indicateur de qualité. Un indicateur de quantité, ben ça prend assez de monde pour faire la job, puis ça, je l'ai déjà expliqué ici. Moi, mon exemple à moi, je donne mon exemple à moi, que c'est celui que je connais le plus, évidemment. Mon citron est pressé au maximum. On aurait beau me dire « il va falloir que tu vois 300 patients de plus l'année prochaine », encore besoin de dormir la nuit.
T'sais. Non, c'est ça. On le sait, tu as travaillé 26 jours en ligne, etc. Ouais. Là, tu nous l'as très, très bien expliqué.
Ouais. Dans cette dernière semaine, j'ai 2 jours de libre de fin de semaine.
Le narratif des médecins, puis c'est une critique là, que j'ai à l'égard des deux groupes de médecins, c'est qu'on parle beaucoup de médecine fast-food, mais quand on a regardé en Ontario les statistiques par rapport au nombre de patients que les médecins ont, ils vous dépassent largement. Ils rencontrent plus de gens. Moi, j'aimerais ça savoir, Doc Savard, quand vous comparez vos chiffres avec les pairs de l'Ontario, qu'est-ce qui fait en sorte que ils rencontrent plus de monde? Y a-t-il moins de paperasse à remplir en Ontario qu'au Québec?
Il y a plusieurs éléments dans cette question-là. Évidemment, on ne parle pas nécessairement de patients, mais on parle de quantité d'actes. Il faut savoir que les actes ne sont pas calculés de la même façon dans les deux provinces. Je donne un exemple. Moi, je suis lecteur d'électroencéphalogramme. Il y a 7-8 ans, quand je disais un électroencéphalogramme en continu qui durait 24 heures, dans ma facturation d'actes, je facturais à chaque heure que je voyais. Maintenant, c'est divisé en 0-3 heures, 3-8 heures, 8 à 24 heures, fait que mon code d'actes concerne 24 heures. Je fais théoriquement 24 fois moins d'actes qu'avant. C'est juste un chiffre comptable. Fait que je travaille autant qu'avant, mais... Quand on compare des nombres d'actes, la façon de facturer à l'acte en Ontario n'est pas nécessairement la façon de facturer à l'acte au Québec. J'entendais des gens dire, pour un accouchement en Ontario, dans la stricte facturation, il y a trois actes, alors qu'au Québec, il y en a un. Fait qu'en Ontario, ils font trois fois plus d'actes. Mais donc, non, ils font tous les deux un accouchement. Fait que on compare vraiment des pommes avec des oranges. Là, c'est très, très, très dangereux de comparer les codes d'actes. Ça, c'est une affaire. Puis l'autre chose, ben c'est certain que du point de vue paperasserie, tout ça, c'est, je veux dire, quand on est dans, quand je suis dans mon bureau à remplir des formulaires de la SAAC pour des permis de conduire ou à remplir des formulaires, là, tu sais, on me demande à chaque année, une compagnie d'assurance que je nommerai pas, de remplir un formulaire de 4 pages pour dire que quelqu'un a une invalidité permanente. À chaque année, j'essaie de leur expliquer, ben, allez donc ouvrir le dictionnaire pour voir qu'est-ce que ça veut dire permanent. Mais il semble que c'est un an permanent pour eux autres. Fait que un an après, je le remplis.
Vous devez le refaire.
Je vais le refaire. Puis, tu sais, j'entends le ministre Dubé dire on a passé une loi pour que s'il y ait juste un formulaire qui couvre pour toutes les compagnies d'assurance pour simplifier ces affaires-là. Je ne l'ai pas encore vu, cette affaire-là. Je n'ai pas vu jamais passer là, ce nouveau formulaire-là.
Est-ce que vos pères en Ontario ont la même paperasserie? Est-ce qu'il y a plus de technologie en Ontario qui fait en sorte que...
C'est moins centralisé en Ontario.
C'est moins centralisé.
Les choses sont plus proches des gens. Puis le meilleur exemple de ça, c'est... Encore, il faut revenir à la lettre de la fille de Lionel Carman, là, qui réussit à avoir 4 fois moins de patients au Québec qu'en Ontario pour des raisons strictement administratives, d'organisation, des soins, tout ça. J'ai réentendu Christian Dubé en entrevue dire à un moment donné, on cherche à comprendre, appelle-la donc, Caroline. Elle ne doit pas être trop loin, puis je suis certain qu'elle va accepter de lui répondre. Là.
Les salles d'opération sont-elles plus disponibles en Ontario qu'au Québec?
Moi, je n'opère pas, mais c'est ce qu'on nous raconte, que les salles d'opération roulent en Ontario. Mais tu sais, tout est plus proche. Je vais vous donner un autre exemple. Nous autres, en neurologie, on couvre large, je couvre... on est un centre très spécialisé, mais je dois être très spécialisé aussi en maladie vasculaire cérébrale à cause qu'on est un centre de référence pour l'Aide du Québec, puis on est assez peu de monde à faire ça. Puis on aimerait ça avoir plus de neurologues spécialisés en maladie vasculaire cérébrale à l'enfant Jésus. On est limité par ce qu'on appelle les PREM. Les PREM, c'est les plans régionaux d'effectifs médicaux, c'est-à-dire que au Québec, il y a un certain nombre de postes en neurologie à Québec, un certain nombre à Rimouski, un certain nombre partout, pour s'assurer que les régions ne soient pas dégarnies. Ce qui est bien en soi, ça, c'est une bonne idée en soi. En Ontario, ils ne sont pas pognés avec ça. Si à l'hôpital d'Ottawa, j'ai besoin de 2 neurologues vasculaires de plus, ils vont voir le DG et dire hey, on en prendrait 2 de plus pour réussir à combler. OK, c'est réglé. T'sais, ils n'ont pas à passer par une structure aux 5 ans où le gouvernement va étudier. Peut-être que je trouve que tu aurais besoin d'un poste de plus. Fait que t'sais, la discussion est beaucoup plus simple, beaucoup plus décentralisée dans les hôpitaux, proche du monde, proche du terrain, puis fait que ça facilite beaucoup les affaires.
Et là, on a fait le contraire avec Santé Québec. On est venu encore plus centraliser.
Exactement.
Et on a enlevé du pouvoir aux hôpitaux.
On a rajouté encore des gens dans la structure. On va rajouter des fonctionnaires pour décider des pastilles de goût de chacun des patients. Fait que on continue de rajouter du monde autour, partout. Puis on a de moins en moins de monde sur le terrain. Fait que c'est pas facile.
Doc Savard, vous êtes médecin spécialisé en neurologie à l'hôpital L'Enfant Jésus, donc un médecin spécialiste. Moi, dans les statistiques, là, pour ce qui est du sondage, je trouve ça hallucinant. Le chiffre exact, c'est 57 %. Donc, il y a 6 médecins spécialistes sur 10 qui disent pas être en mesure d'effectuer leur travail correctement. Comment ça se... dans la vraie vie, dans votre métier, comment c'est possible? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pouvez dire, moi, Yann, des fois, je ne suis pas capable d'effectuer mon travail correctement? C'est quoi les éléments?
Bien, je veux dire, encore une fois, je donne mon exemple à moi, c'est celui que je connais le mieux, mais tu sais, c'est certain que nous autres, on peut avoir des débordements de patients. On arrive à un moment donné sur les étages, tu sais. On va être à un moment donné, on va avoir des. On va se faire couper si les patients ne montent pas assez vite à l'étage. C'est-tu de ma faute? Moi, je peux avoir 6-7 patients qui attendent pour aller à l'IRDPQ, en réadaptation, en neurologie. Je peux en avoir 5-6 qui attendent leur place en CHSLD. Ça peut leur prendre 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Fait qu'en ce moment-là, ça déboule, puis les patients se ramassent jusqu'à l'urgence. Fait que, tu sais, tant que... ça peut être exagéré comme vision des choses, mais quand j'étais résident il y a une vingtaine d'années, il y a un des urgentologues qui disait « Le problème de l'urgence n'a jamais été à l'urgence. » Le problème de l'urgence est à la sortie de l'hôpital. Fait que tout ça, c'est un jeu de domino, puis ça se répercute jusqu'à l'urgence. Les gens vont dire, puis ça, je suis d'accord, c'est sur le niveau de gravité, on peut être vu plus ou moins vite à l'urgence, mais pour ce qui est de dormir à l'urgence, avoir besoin de rester là, tu sais, il n'y a pas encore de corridor sur les étages, fait que les gens, ils restent dans les corridors à l'urgence en attendant de monter ces étages, puis d'aller éventuellement à réadaptation. Fait que c'est tout ce jeu de domino-là qui va jusqu'à l'entrée.
Puis les solutions, c'est quoi? Tu sais, moi, j'ai j'ai des chums ambulanciers qui viennent passer à l'antenne une fois de temps en temps pour nous parler de leur métier au quotidien puis les problématiques qui peuvent subvenir. Puis de voir qu'il y a une quinzaine d'ambulances, des fois, qui sont en attente avant d'être prises en charge par l'hôpital, puis il y a un peu d'ambulances dans le garage, puis un peu d'ambulances qui sont dehors en file, puis ouais. Les ambulanciers sont pognés pour rester avec le patient. Exemple, qui a une jambe cassée. C'est très important, là, il faut rester avec le patient, mais pourquoi on pourrait pas prendre... Parce que là, ça touche pas le cœur. Pourquoi on prend pas le patient, on le met pas dans le garage avec un ou deux techniciens ambulanciers, puis eux peuvent avoir la garde de 5-6 personnes qui sont blessées, puis qui sont pas blessées sévèrement, pour laisser repartir l'ambulance. T'sais, eux, ils nous amènent des solutions de cette façon-là. Je trouve ça hyper pertinent.
Absolument.
Mais est-ce que vous autres, vous proposez de votre côté?
Mais moi, je suis d'accord avec ce genre de solution-là. Mais je veux dire,
mais
c'est
où ça bloque, Doc?
Ben, il faudrait qu'on soit écouté par quelqu'un en haut. Je veux dire, nous autres, c'est toutes des choses du terrain. Ils ont raison, les ambulanciers qui vous disent ça. Ils ont parfaitement raison. Mon gars s'est retrouvé dans une ambulance il y a à peu près un an, puis s'est ramassé à l'urgence, puis il dit « Caroline, c'était gênant. J'allais quand même pas pire rendu là, puis j'étais assis, puis il était à côté de moi, puis il était pogné pour attendre.
Ouais.
Il a attendu, je pense, 2 heures à côté ouais. de lui, l'ambulancier. Ça n'a aucun maudit bon sens.
La semaine passée, une jambe cassée, 4 heures. Les gars sont pognés dans l'ambulance avec le patient.
Oui, absolument. Mais tu sais, je veux dire, qu'on vienne nous rencontrer puis qu'on nous demande des solutions, on en a des tas. Mais venez nous rencontrer. Arrêtez de rester en haut à faire un projet de loi où il y a tellement d'exemples pour montrer qu'il n'y a pas de gens du terrain qui l'ont lu avant. Là,
donc, ça revient à ce que tu disais tantôt. Parler avec la fille à Lionel Garment va vous expliquer.
Ben,
il
n'y
a pas ces discussions-là qui se font ni avec les médecins spécialistes, ni avec les omnipraticiens, ni avec le personnel infirmier.
Tu sais, ça prend... j'ai donné l'exemple après l'entrevue que je suis venu ici. Là. Quand ça a été le temps de faire le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, Véronique Yvon s'est promenée de place en place. Elle oui. a rencontré le monde, elle a posé des questions, elle a peaufiné son projet de loi, puis elle a sorti de quoi à la fin qui faisait l'unanimité. On est capable de faire ça en santé, sans l'ombre d'un doute. On est des gens, je pense, pas si pire intelligents. On est des gens qui veulent profondément le bien de leurs patients. Puis, venez nous voir des solutions. On en a plein. Mais, tu sais, ça peut pas être une logique comptable qui se fait dans les hautes sphères.
Est-ce que ça prend un changement de garde? Est-ce que Christian Dubé doit quitter? Là, je sais que les médecins spécialistes, les omnipraticiens, vous allez négocier avec France-Hélène Duranceau, mais encore là, elle, c'est les cordons de la bourse. Ce n'est pas nécessairement le système de la santé en tant que tel.
Bien, je dois dire qu'après 5 ans, comme ministre de la Santé, il ne m'a pas fait la preuve qu'il comprenait le système.
On nous dit qu'il y a une perte de confiance à l'égard de Christian Dubé. De l'autre côté, c'est un jeu politique. Là. Si François Legault décide de tasser Christian Dubé alors qu'il tente de faire une réforme puis d'améliorer les choses, ce serait un désaveu envers les décisions que le gouvernement a prises. Fait qu'est-ce qu'il va le faire? Moi, je pense que pour le besoin de la négociation, Christian Dubé devrait peut-être lui-même se tasser puis de mettre une tierce personne à sa place. Mais je pense pas qu'il le fasse, bien honnêtement. Qu'est-ce qui vous empêche, Doc, d'aller au privé? Qu'est-ce qui empêche vos collègues d'aller au privé actuellement, demain matin? Parce que je regarde les conditions de travail pour ce qui est des médecins et des médecins spécialistes au privé. Puis si j'avais eu l'intelligence d'aller à l'université en médecine, bien possiblement que je trouverais ça très avantageux d'aller au privé puis avoir des conditions de travail qui ont du bon sens pour un être humain.
Oui. On a des sur-spécialités comme médecin spécialiste, puis c'est de plus en plus pointu. Moi, je m'occupe de soins intensifs au privé. Je ne trouverais pas ça au Québec. Hein, aux États-Unis, je pourrais le trouver, mais au Québec, je ne trouverais pas ça. Ensuite de ça, je m'occupe de patients épileptiques. Le patient épileptique moyen, il n'a pas de job, il n'a pas d'argent, puis il n'est pas capable d'aller se payer un médecin privé. Fait que c'est sûr que les clientèles dont je m'occupe ne sont pas des clientèles que je retrouvais facilement au privé. Je pourrais aller faire m'occuper de mon tête au privé. Là. Je veux dire, je vais avoir une liste d'attente épouvantable le lendemain matin. Là, j'ai mal à la tête, je pourrais avoir mon docteur au privé.
Ça, c'est 8 à 5 d'injection de Botox, ça vous intéresse pas?
Mais tu sais, j'ai été formé à quelque chose, puis je crois encore à ma mission d'essayer d'aider du monde, puis d'aider mon prochain à quelque part aussi. Là. Ouais. On a de l'empathie pour tout ça, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si les conditions deviennent invivables, ça devient facile, puis on peut se poser la question... Jusqu'à quel point le but de cette loi-là est de déstabiliser le système public pour qu'éventuellement le système privé prenne la place au Québec. Si j'étais un Québécois là, qui n'est pas dans le système de santé, je penserais longuement à ça. Puis si j'étais un journaliste d'enquête, je me poserais des questions.
Ah oui? Quand vous êtes malade ou votre famille est malade, est-ce que vous allez dans le système public ou privé?
Public.
Jamais vous avez hésité?
Ah non, j'ai jamais hésité d'aller dans le système public.
Ils ont-tu des passe-droits, les gens de votre famille?
Bah, des passe-droits, non. Mon gars est en attente de voir un pneumologue. Ça fait un an et demi. Fait que j'attends qu'il voit son pneumologue. C'est sûr que des fois, je rencontre Pierre-Jean-Jacques à côté, docteur, puis je pose une question, puis je vais avoir une réponse, puis ben ça va être plus facile. Ben tu sais, je veux dire, c'est tout ça dans tous nos domaines respectifs. Mais je m'organise pour suivre le système autant que je peux.
OK. Ah, vous êtes bon, parce que moi, ouais. À un moment donné, je voulais aller à la clinique pour mon enfant. J'étais pas capable. Je voulais aller à la clinique sans rendez-vous, où on doit prendre des rendez-vous. Puis j'étais pas capable d'en avoir.
Fait que finalement... Faut que tu prennes un rendez-vous avant 4h30 le matin, parce qu'à 4h31, il n'y en a plus.
C'est ça.
Puis là, quand tu dis, ouais, selon un rayon de 50 km où je pourrais bien aller, ils te disent qu'il n'y en a plus non plus.
Il n'y en a plus non plus.
Ça va super bien la première ligne.
Moi, j'ai pris la décision d'aller au privé, puis de payer le prix pour aller au privé, mais j'ai pas perdu mon après-midi de travail. Ouais. Puis j'avais un rendez-vous fixe et je suis allé rencontrer. Moi, c'était une infirmière praticienne que j'ai rencontrée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire avec mon enfant. Puis par la suite, ça a bien été. Mais je trouve ça correct de votre part de dire, moi je continue d'aller au public parce que vous avez les moyens d'aller au privé.
Oui, oui, non, j'aurais les moyens d'aller au privé. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que le privé au Québec, encore une fois, tu sais, on est, semble-t-il, le privé le plus développé au Canada, là, mais ça demeure un privé de jours, de semaines. Tu sais, fait que le public demeure la porte d'entrée pour les grosses urgences, pour les soirs, les fins de semaine. Je ne dis pas que les jeunes du privé n'auraient pas envie éventuellement de faire évoluer ça, faire quelque chose de plus global. Mais pour l'instant, le privé ne nous sauvera pas. Là.
Merci beaucoup, Doc Savard.
Fait plaisir.
Salut,
plaisir,
merci.
De passer une belle journée. Salut. Je sais que vous en allez à l'hôpital, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Martin Savard, médecin spécialisé en neurologie à l'hôpital L'Enfant-Jésus, était avec nous pour parler du sondage léger qui est paru il y a de ça quelques heures. 36 % des spécialistes qui vont quitter le Québec depuis 5 ans. Donc, 4 médecins spécialistes qui disent « Non, non, moi, je vais quitter le Québec.
Ouais. »
C'est une perte. C'est un sondage qui a été réalisé du 31 octobre au 6 novembre. Et c'est 59 % des participants, donc 6 700 membres. C'est un sondage qui est assez gros quand même. Et 28 % des médecins qui disent vouloir rester au Québec.
Donc, c'est pas beaucoup.
On va-tu vieillir ici? On va-tu aller se faire soigner
ailleurs? On va souhaiter qu'un prochain ministre de la Santé ou un prochain gouvernement consulte les gens sur le terrain.
Oui, on va le souhaiter.
Parce que Martin vient de nous exprimer plein de solutions qui émanent du terrain qui ne semblent pas être écoutées.
Denis s'en vient dans les prochaines secondes pour ce qui est du pit stop. Juste avant, on va y aller avec Max à la circulation.
Yes, l'accident pour le pont Pierre-Laporte, là, direction sud, c'est réglé. Fait que bonne nouvelle de ce côté-là. Par contre, tout ce qui est de l'accès au pont direction nord, c'est encore un pas pire bordel. La 40 Est entre Duplessis et Henri IV, c'est au rouge. La capitale Ouest, ben jamais avant Bourg-Royal jusqu'à Laurentienne. Robert-Brasse sud vers le boulevard Le Bourgneuf, toujours un peu de problème. Ça va mieux sur Henri IV sud vers Chauveau. Et puis deux breaking news rapportés par Sébastien Bovet de Radio-Canada. D'abord, la mise à jour économique des finances publiques du Québec aura lieu mardi prochain, le 25 novembre, avec pour titre « Protéger notre pouvoir d'achat et notre économie ». Ça, je m'en fous. Par contre, l'autre breaking news, puis ça, on aime ça parce que c'est du drama. Départ inopiné. Inopiné, c'est un beau mot, ça.
Oui, wow, bravo, Maxime.
Non, c'est pas prévu.
C'est pas moi, c'est Radio-Canada.
Maxime Bock-Côté.
Non, c'est Sébastien Bovet, c'est pas moi. Fait que départ pas prévu de la directrice de cabinet de Marois Risky, annulation d'une activité de Pablo Rodriguez en Outaouais, silence assourdissant du parti, ambiance de gestion de crise. Fait que la marde est du pognon au Parti libéral du Québec à suivre.
Mais ça me surprendrait que ce soit à cause de Marois Risky, là.
Oui, mais ça ajoute encore plus au questionnement.
Parce que si tu veux mon avis, c'est elle qui devrait être chef du Parti libéral du Québec actuellement.
Elle a décidé de s'occuper de ses enfants et le Parti libéral du Québec est triste.
7h50, Denis Gravel s'en vient.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par